J'étais une petite fille, donc ce qui était alimentation, moi, ça me passait un peu au-dessus de la tête, hein. J'étais d'autre part une piètre mangeuse. Mais ça, effectivement, ça a changé rapidement, hein, dès que toutes les denrées sont devenues rares. Ah oui, il y a des choses qui ont disparu, hein. Le beurre, par exemple. La viande, je pense également. Le pain était sûrement rationné. Les sucreries, je pense que les sucreries étaient devenues introuvables, hein. Les desserts, tout ça, ça s'est peut-être pas ressenti de la même façon parce que tout était fait maison. Que ce soit, il n'y avait pas de biscuits en paquet, tout ça, tout était fait maison. Alors, je pense que la quantité a dû diminuer, peut-être même disparaître complètement, mais d'autre part, différence entre les gens qui vivaient en ville et les gens qui vivaient à la campagne. Moi, j'ai ressenti, tant on est resté à Lyon, et mon père était donc. Était dans la résistance, il a été arrêté en 43. Tant que mon père a été présent, il s'est débrouillé pour trouver à manger. Et une fois qu'il a été emprisonné, là, on a senti la différence. Mon frère était un adolescent et je pense que lui a plus souffert que je n'ai souffert de la faim. Oui, on peut dire de la faim. Quand on s'est enfui de Lyon, quand on est parti de Lyon et qu'on est parti à la campagne, ça a été un autre mode de vie, quand même. On était dans le Limousin, je me souviens qu'on trouvait des châtaignes, on trouvait des fraises des bois, on se nourrissait beaucoup avec ce qu'on trouvait sur place, sans avoir besoin d'acheter. Les œufs, les légumes, tout ça, c'était monnaie courante. En ville, il fallait. Il n'y avait pas de ferme aux alentours. Les gens qui se déplaçaient pas pour aller acheter à la campagne, pour faire du marché noir. Enfin, non, ce n'était pas du marché noir. C'était. Les gens cherchaient à s'alimenter et partaient chercher dans les environs de Lyon. Mais là, on était sur place. On était vraiment sur place. Ma mère préparait ou un plat à mijoter ou un gâteau et qu'elle emportait chez le boulanger qui cuisait ça dans son four pour quelques sous, quoi. Lui, son four marchait, donc on allait chercher le plat quand il était fait. Je ne pense pas qu'on m'ait confié la mission d'aller le chercher, hein. Mais enfin, je me souviens être partie chez le boulanger avec les plats, sûrement, soit mon frère, soit ma mère, je pense. Je me souviens d'ailleurs d'avoir été chercher ces tickets de rationnement avec ma mère. On habitait Villeurbanne et le centre de délivrance des tickets était là où il y a la MJC maintenant, de Villeurbanne, vers la place Grand-Clément. Et je me souviens qu'on allait chercher les tickets à cet endroit pour Damido, il me semble que c'était. Je ne sais plus le nom, mais je me souviens qu'on allait chercher les tickets à cet endroit. Donc il y avait des tickets pour l'alimentation, pour le textile, je ne sais pas, pour le charbon, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était le pire ou le meilleur, mais je me souviens donc qu'on n'est pas resté à la campagne. La division SS d'Asreich est arrivée dans le village et on s'est enfui et on est revenu à Lyon. Et j'étais dans un internat et je me souviens que. Donc là, on avait des casiers et on avait des boîtes avec ce qu'on avait comme aliments, c'est-à-dire le pain pour plusieurs jours et je me souviens d'un repas, je ne sais pas si ça s'est produit plusieurs fois, on avait eu une pomme de terre ou des pommes de terre, je ne sais pas. Et en dessert, on avait une crème dessert au chocolat, ben, entre guillemets, hein, le chocolat. Et je me souviens qu'on ça a dû se produire plusieurs fois parce qu'on n'aurait peut-être pas eu idée une fois de le faire. On gardait les pommes de terre et en fin de repas, quand on nous servait la crème dessert, on écrasait les pommes de terre dans cette crème au chocolat. Et ça faisait beaucoup de volume et on avait l'estomac bien rempli. Ah non, le vrai chocolat, on ne connaissait pas. Hein. On avait des espèces de bâtonnets fourrés avec. Je sais pas quoi, un ersatz que j'aimais beaucoup, moi. Après-guerre, j'ai été longue à à me mettre au chocolat, parce que je pense que j'en avais pas consommé des tonnes. C'était quand même, je pense que même avant-guerre, c'était peut-être un produit de luxe, hein, quand même. Et j'ai été longue à me mettre au vrai chocolat. De toute manière, on trouvait plus l'ersatz après. Hein. On avait. L'administration détenait nos cartes d'alimentation et chacune, puisque c'était un internat de jeunes filles, avait la même portion. On se faisait du chewing-gum. Donc on était à la campagne, on ramassait du blé, on prenait du blé et qu'on mâchouillait jusqu'à ce que ça prenne une consistance de pâte. Comme de la pâte de la pâte à pain, quoi. Et on mâchouillait ça. Parce qu'il y avait quand même quelque chose. D'une part, le chewing-gum n'était pas connu, hein, avant-guerre. Je ne sais pas comment ça. Il y avait sûrement quelque chose, de la gomme à mâcher ou quelque chose comme ça. Mais qu'on ne trouvait plus. Je me souviens aussi avoir remplacé le chewing-gum par de la paraffine, ce qui coulait des bougies. Je me souviens également, donc ça c'est tout de suite après-guerre, on ne rejetait pas notre chewing-gum. On le mâchait toute la journée. Quand il fallait aller manger, moi j'enlevais mon chewing-gum de la bouche et je le collais sous la table. Et mon frère faisait la même chose et éventuellement je récupérais son chewing-gum. Je me souviens, pendant l'exode, on avait donc quitté Nancy où on habitait. Et on avait voyagé un peu dans un train militaire. Et il y avait des wagons postaux à l'époque. Le tri des lettres se faisait dans ces wagons qui étaient transportés d'une ville à l'autre. Et donc, il y avait des soldats français et qui nous avaient donné à manger à mon frère et à moi. C'était avant l'invasion de la France, quand même, hein. C'était au moment donc où on était encore en guerre. Et ils nous avaient fait des tartines de pain de campagne sur lesquelles ils avaient étalé du beurre, écrasé des sardines et râpé du chocolat. La soupe, ça mijotait toujours sur un coin du fourneau, hein. Et là, on s'est beaucoup nourri de châtaignes parce que le coin donc, où on était. Dans la Haute-Vienne, il y avait énormément de forêts de châtaigniers. Et donc, on allait ramasser des châtaignes. Et c'était quand même nourrissant. C'est nourrissant, ça. Je me souviens également qu'à l'école, on nous donnait des vitamines. Alors, c'était soit de l'huile de foie de morue, soit. Mais cette huile de foie de morue, on nous la faisait avaler à la cuillère, il me semble. C'était pas des. C'était pas des pastilles, c'était pas des cachets. Et on avait des petites pastilles de vitamines. C'était parfumé à la fraise. Alors je sais pas qu'est-ce que ça nous apportait. Mais enfin, on avalait notre pastille vitaminée. Je me souviens du laitier qui passait avec son vélo et son caisson et qui versait le lait. Il avait une espèce de louche graduée, parce que le lait était restreint. Nous qui étions des J2, des J3, je ne sais plus quoi, on avait droit à un peu plus de lait que les autres. Il y avait aussi, je me souviens, alors je pense pas, ça devait être tout de suite après la fin de la guerre, du lait en poudre. C'était dégueu. Ça avait une odeur de serpillière mal lavée. C'était quelque chose qu'on nous servait à l'école aussi. C'était quelque chose d'absolument atroce. On fumait, on arrachait les feuilles sèches, on les roulait dans un morceau de papier journal, et on fumait. On fumait aussi, on allumait on faisait flamber une allumette, puis quand il restait le point rouge, on tirait sur l'allumette. Je ne raconte pas ça à mes petits-enfants. Hein. Je ne sais pas, ne pas avoir j'utilise un produit, j'ai le produit, le même produit en double qui attend dans un plat. Je fais des provisions. J'accumule. Je dépasse d'ailleurs souvent la date de péremption, mais j'ai l'impression que, comme on dit, je vais manquer.